Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts cévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès
107 FM.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Palabre en forêt. Bonjour Virginie.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Salut Aymeric.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va parler de sylvotrophée, parce qu'en octobre dernier a eu lieu la troisième édition du sylvotrophée sur le territoire du Parc National des Cévennes. Et on a voulu en savoir plus sur cet événement et rencontrer le lauréat de cette édition. On accueille donc aujourd'hui Baptiste Alguette, qui est responsable du pôle forêt-chasse au Parc National des Cévennes. Salut Baptiste.
Bonjour.
Et Xavier Lefebvre, qui est propriétaire de la forêt de Peyrates à Bar des Cévennes et qui est donc le lauréat de cette année. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Alors, Baptiste, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter et présenter tes missions au sein du Parc National ?
Oui, donc comme tu l'as dit, je suis responsable du pôle forêt-chasse. Donc je suis ingénieur forestier de formation et j'encadre là une petite équipe qui est actuellement composée de 4 techniciens, techniciennes ou chargés de mission. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais grosso modo, on est un peu chargé de faire appliquer la réglementation dans le cœur du Parc National des Cévennes en lien avec la forêt. Donc ça se traduit surtout par l'instruction de tout ce qui est demande d'autorisation. Donc sur les coupes, les travaux sur les pistes ou les demandes de défrichement, ce genre de choses. On formule aussi des avis sur tous les documents de gestion durable, que ce soit en forêt privée ou en forêt publique. Et en amont de ces documents, on travaille avec les propriétaires et les gestionnaires en réalisant des diagnostics écologiques pour faire connaître en fait aux propriétaires et aux gestionnaires les enjeux écologiques et patrimoniaux de façon à ce qu'ils soient pris en compte du mieux possible dans les mesures définies dans ces plans de gestion. Voilà, et puis après on a toute une série d'actions de conseils, promotion des bonnes pratiques de gestion forestière durable, communication, animation. Voilà, en gros.
Merci. Alors, le sylvotrophée, c'est un concours forestier. On en est à la troisième édition maintenant sur le territoire du parc. Est-ce que tu peux tout nous dire? Pourquoi il a été créé? Comment ça se passe? Il y a un jury, voilà, qui en fait partie?
Oui, alors en fait, le sylvotrophée, c'est un peu inspiré du concours Prairie Fleurie, qui est connu sur le milieu agricole, mais transposé à la forêt. Donc, c'est une initiative qui est née dans les années 2012-2013, je crois, plutôt dans les parcs naturels régionaux du Grand Est. Et depuis 2018, ça a été repris à l'échelle du Massif Central. Donc on n'est pas le seul parc sur lequel ça a lieu, mais ça a lieu aussi sur d'autres parcs, en l'occurrence des parcs naturels régionaux, dans le Massif Central. Donc l'objectif de ce concours, en fait, c'est de promouvoir les bonnes pratiques de gestion forestière en mettant en valeur les propriétaires et les gestionnaires qui les mettent en œuvre. L'idée, c'est d'être en les mettant en avant, c'est de communiquer auprès des autres propriétaires forestiers, des autres gestionnaires, pour essayer d'avoir un peu un effet boule de neige, que voilà, les bonnes pratiques puissent en inspirer d'autres, mais aussi de parler forêt et gestion forestière auprès de, alors j'aime pas le mot, mais ce qu'on appelle le grand public, enfin, auprès de, voilà, de tout le monde, pour parce que souvent on a un avis un peu sur la forêt, mais on sait pas trop ce que c'est que la gestion forestière durable, donc voilà, c'est l'occasion aussi d'en parler. Et donc après le sylvotrophée, comment ça se passe? Alors au printemps, là, on a lancé un appel à candidature. Et puis ensuite, les candidats donc remplissent, ils répondent en remplissant un dossier d'inscription, décrivent dans un petit dossier leur forêt, les objectifs qu'ils poursuivent sur la forêt, la vision qu'ils en ont, et présentent une parcelle qui a fait l'objet d'une coupe dans les 10 dernières années. Voilà, donc il y a cette première phase de candidature. Si on a plus de 4 candidats, on fait une présélection. On ne peut en retenir que 4 en partenariat avec les collègues, les partenaires forestiers, donc le CRPF, les services de l'État, les chartes forestières de territoire, etc. Donc ensuite, on retient comme ça 4 candidats qui sont retenus pour après dans la forêt visités par un jury. Et donc ensuite, sur 2 jours, il y a des visites du jury, une demi-journée par forêt. Et le jury est composé de 6 personnes, 3 binômes, 3 collèges qui représentent chacun une des fonctions de la forêt. Donc on a un binôme de représentants des usagers, un binôme de représentants des sylviculteurs et un binôme d'écologues, dont Aymeric d'ailleurs faisait partie. Et chacun va un peu regarder la forêt, analyser la forêt sur ses critères différents.
Et du coup, donc, ces trois critères, l'écologie, l'aspect plutôt social et économie, on appelle ça la gestion multifonctionnelle de la forêt, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, la forêt, on dit souvent qu'elle remplit 3, voire 4 fonctions. On va dire 3 pour simplifier. La fonction économique, qui est la fonction de production du bois. Valorisation de la ressource, donc le jury va regarder voilà comment est pris en compte, comment est produit le bois, comment l'exploitation est mise en œuvre, quelles sont la cohérence on va dire entre les objectifs et la gestion mise en œuvre. Ensuite on a la fonction environnementale, donc c'est la préservation de la biodiversité et des sols. Donc ça, le jury va regarder si des arbres d'intérêt écologique sont conservés, est-ce que le bois mort est conservé, comment le propriétaire va favoriser la diversité en essence, la diversité de structures, la préservation des espèces de faune ou de flore. Et ensuite, la fonction sociale, donc tout ce qui est usage récréatif, prise en compte des usages de la forêt avec la randonnée, la promenade, la cueillette de champignons, la chasse, toutes les activités humaines autre que sylvicole qu'on peut retrouver dans la forêt, et puis aussi l'aspect préservation des paysages. Donc ça, c'est les 3 grandes fonctions. On pourrait en ajouter la 4e, je disais, c'est un peu, mais qui est un peu transversale, c'est la fonction de protection. On sait que la forêt remplit aussi des rôles de protection des sols contre l'érosion, protection de la ressource en eau, protection contre les risques naturels, avec les inondations, les glissements de terrain, les chutes de blocs, ou même la lutte contre le changement climatique, à travers la séquestration de carbone. Donc voilà, en fait, une gestion multifonctionnelle, c'est une gestion qui ne se focalise pas sur un ou deux de ces volets, de ces fonctions, mais sur l'intégralité d'entre eux.
Merci. Et Xavier Lefebvre, alors vous êtes l'heureux gagnant du 3e Silvo Trophée organisé par le Parc National. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors, je m'appelle Xavier Lefebvre. Je suis à la retraite maintenant. Ma résidence principale, c'est dans les Hautes-Alpes. Mais bon, depuis que je suis à la retraite, je viens très régulièrement à Bar-des-Cévennes. D'accord. Et donc, je m'occupe de ma forêt très régulièrement maintenant, parce que c'est quand même plus facile maintenant que je travaille plus.
Et vous aviez des liens familiaux en Cévennes ou c'est...
Alors non, il n'y a pas du tout de lien familial en Cévennes. C'est mes parents qui ont acheté cette forêt. D'accord. En 1984. Et donc, moi qui faisais beaucoup les travaux et mon père qui avait pris la gestion de la forêt en main.
Et du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous parler un peu plus de votre forêt en termes d'essence ? Quelle gestion vous y faites ? Comment vous valorisez vos bois ?
Alors, pour continuer à me présenter un peu, j'ai oublié de vous dire que voilà, après, quand mes parents ont décédé, j'ai racheté les parts des visions de mes sœurs et de mes neveux, puisqu'on était beaucoup dessus. Pour plus, moi je trouvais ça plus facile de gérer moi tout seul. Puis en plus, comme c'est moi qui ai suivi tout au long de la vie de mes parents, cette gestion aussi de forêt, je trouvais ça plus pratique. Et puis eux, de toute façon, apparemment, ça les intéressait pas, donc ça a été plus facile comme ça.
Et vous pouvez nous dire... Non, excusez-moi. Et qu'est-ce qui a poussé vos parents, en fait, à acheter une forêt à Bar-des-Cévennes ?
En fait, moi, c'est surtout mon père qui était intéressé pour acheter une forêt à sa retraite. D'accord. Parce qu'il aimait... Bon, il était dans le domaine agricole, lui, mais... il était intéressé beaucoup par les forêts aussi, c'était sa passion, et c'était pour ça qu'il voulait acheter une forêt. Alors dans la Lozère, c'était un peu un hasard, parce que quand il a essayé d'acheter la forêt, il a trouvé, et c'était déjà très difficile de trouver quand même un truc déjà un peu valable et quelque part, et ça atterrit dans la Lozère, à Bar-des-Cévennes. C'était vraiment un hasard. Mais bon, en plus, c'est vrai qu'il a tout de suite aimé la région et tout, donc il venait très souvent aussi sur Bar-des-Cévennes et sur sa forêt.
Merci Xavier pour ces informations. On vous propose de faire une petite pause musicale. Alors aujourd'hui, on voulait vous proposer d'écouter une chanson des Cowboys Fringants en hommage à Carl Tremblay qui nous a quittés très récemment. Donc on écoute L'hiver approche.
Attache ta tuque avec de la broche. Chérie, l'hiver va être tough cette année. C'est fini le temps des brioches. On mange de la misère pour souper. Faut que je fasse poser mes pneus d'hiver sur mon bazou couvert de rouille. Avec le gaz qui est toujours plus cher, ils savent qu'ils nous tiennent par les couilles. J'joue dans le trafic à tous les matins avec des millions d'êtres humains qui se battent pour un pouce d'autoroute sans trop se demander ce qui est au bout. Tout seul au fond de leur voiture, chantonnant des balades FM, sachant comme moi que la vie c'est dur, mais qu'il faut continuer la game. Bon, merci, un accident de troc et ça roule par choc, le gros chute métropolitain, jamais bien raide au quotidien. Le gars qui se fait barrer de chemin, klaxonne en brandissant son poing, comme un lion au fond d'une cage, poigné dans les sans bouteillage. Allez, honnête, citoyen qui rêve de plage et de clumette au milieu de l'hiver canadien. Votre boulot est le seul remède, mais soyez quand même aux aguets, car le burn-out vous court après. Tu travailles trop, mon petit chemin, tu vois même pas ta vie passer. La terre entière carbure au fric, ça a l'air qu'on n'est pas tant gamique. Parce que dans le monde des gens importants, y'a pas grand place pour les perdants. Ils se contentent de nous balancer à trois heures du jour ou de la nuit toutes leurs conneries de publicité, pis ce qu'ils ont à nous vendre comme bullshit. En stationnement des centres d'achat, c'est encore le branle-bas de combat. Des chars à 1 000 à la ronde, pis des magasins noirs de monde. Le Père Noël vient de débarquer, on n'est même pas à mi-novembre. Le petit Jésus doit être déprimé, les vendeurs sont revenus dans le temps. Veillez plus tard, achetez maintenant Interac ou Argent Comptant, Visa, American Express, j'en ose même les chèques de BS. Suis le marchand de cochonnerie, le vendeur de rêves à bas prix. L'American Dream en personne, c'est pas cher pour avoir du fun. Allez hanter leurs parents de louer pour acheter une belle bagnole, pas d'intérêt pendant un an. Puis ton cul sur les sièges chauffants, vos vies plates seront transformées par mes illusions emballées. Si jamais t'es pas content, ici t'y a pas de remboursement. J'loue ma vie à un employeur, à coup de journée pis de coup de sueur. Quand je pense qu'on fait toute la putain pour pouvoir se payer des cossins, ils se rendent compte qu'un petit rien tout neuf, ça rend pas le cœur plus joyeux. Parce que le bonheur de toute façon s'achète pas d'une boîte de carton. Sauf que devant mon verre de bière vide, ma gorge est une terre aride. Ça me prendrait donc un petit remontant pour faire passer mon mauvais temps. Mais j'ai pas une scène dans les poches, c'est tout le temps même quand l'hiver approche. Mmh.
Et vous êtes de retour dans l'émission Palabre en forêt sur Radio Bartas 107FM. Nous sommes avec Bertie Zadgoua du Parc National, Xavier Lefebvre, propriété forestière à Bar-des-Cévennes. Et voilà, on voulait savoir, Xavier Lefebvre, vous nous avez un petit peu présenté votre forêt. Est-ce qu'on peut un peu approfondir quelle essence on y trouve?
Oui.
Quelle est votre vision, vous, pour gérer votre forêt?
Alors déjà, ma forêt, elle est composée de beaucoup de variétés d'arbres. Il y a des résineux et beaucoup de feuillus.
Vous pouvez nous en citer quelques-uns d'essences d'arbres?
Oui, alors en résineux, il y a du pin, l'aricio, du sapin, du cèdre et du mélèze en mélange. Et puis après, il y a en feuillus, il y a beaucoup de hêtres. À la base, d'ailleurs, c'était pratiquement qu'une forêt de hêtres, avec un petit peu de résineux sur le haut. Et après, donc, avec le hêtre, il y a du bouleau, du mûrisier, des érables, de la lisier, du chêne sécessile et du frêne.
C'est une forêt bien riche.
Voilà, et puis en disséminé, on trouve aussi du sorbier et des isoleurs et du saule.
Ah, du saule, très bien.
Voilà, vraiment très 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 varié, oui, comme forêt.
Ok.
En plus, alors donc nous, depuis qu'on la gère avec moi, qu'on la gère avec mon père et que moi j'ai continué après, c'est une forêt qu'on gère en gestion de type forêt irrégulière, ou comme on l'appelle plutôt maintenant, à couvert continu. Donc pas de coupe rase, on fait plutôt du pied. Quand on fait des coupes, on fait pied par pied plutôt. Voilà.
Vous regardez arbre par arbre. Ok. Et du coup, toutes ces essences forestières, elles étaient déjà présentes ou vous avez
Alors,
fait
un
travail?
Oui, il y en a certaines qui étaient présentes, hein, comme les pins et les hêtres principalement, quoi. Après, il y en avait toujours un peu à droite, à gauche, qui étaient présentes, mais on a introduit, c'est vrai qu'on a, avec des gens de mes parents, on a introduit un peu de feuillus, surtout, et de cèdre en résineux.
D'accord, ça, vous l'avez planté?
Oui, on a planté, oui.
Et oui, Xavier, me permets, tu nous as dit que tu gérais à couvert continu et un peu pied par pied. Est-ce que tu peux nous dire comment tu choisis, comment ça se passe en fait quand tu programmes une coupe, quelles sont les opérations que tu mènes en amont et puis comment tu fais les choix, quels sont tes objectifs en fait à travers ces coupes et ces opérations?
À travers ces coupes, c'est je prends le choix de prendre les arbres déjà bien formés, qui ont un certain âge déjà, donc des arbres un peu gros et assez, un peu haut, quoi. Et après, je regarde un peu aussi ce qu'il y a autour, s'il n'y a rien autour, je laisse quand même encore un peu. Et s'il y a quand même un peu de autour d'arbres qui viennent, qui sont beaux, donc je coupe un peu les meilleurs et qui sont arrivés à un âge déjà à couper, quoi.
Et parce que ce que tu dis pas, mais ce qui est important ce qui avait été noté par le jury notamment, c'est que tu fais ces choses toi-même. C'est toi qui tient la bombe de peinture et qui va marquer tes arbres en forêt, quoi.
Oui, c'est moi qui continue à faire ce genre de choses. Ouais. C'est moi qui fait les marquages et voilà. Et avant c'est moi qui faisais un peu tout dans la forêt, hein, que ce soit bûcheronnage, débardage et tout ça, je le faisais moi. Et lagage aussi, on a fait beaucoup d'élagage avec mon père. Moi, je continue à faire l'élagage. Mais la partie coupe et débardage, je l'ai confié à ma fille et à mon gendre.
Ça reste en famille. Et tout ça, vous l'avez appris comment? Sélectionner les arbres, élaguer, tout ça, c'est avec votre papa ou...
En partie, oui, beaucoup avec mon papa. Après, j'ai fait quand même un stage il y a très longtemps en arrière, d'exploitation forestière.
Okay. ça.
Donc pendant 9 mois et avant que mon père achète cette forêt. Ça a commencé à me donner une idée du travail, de ce qu'il fallait faire et pas trop faire. Bien qu'à cette époque-là, on faisait beaucoup de coupes rases, mais nous, on était complètement contre dès le départ. Mais au sens ça m'a appris. Et puis après, je suis quand même aidé pour la gestion et les conseils par le CRPF, enfin CNPF maintenant, et surtout par eux, quoi. Et après, c'est vrai qu'avec mon père, j'ai appris au fur et à mesure sur le tas, quoi, comme on dit.
Et du coup, on voit que vous êtes très très impliqué dans la gestion de votre forêt. Vous la gérez donc tout seul. Vous faites les choix des arbres à abattre. Qu'est-ce que votre forêt, elle représente pour vous? Comment vous y sentez quand vous êtes dedans, quand vous la travaillez?
Ah bah déjà, ça représente pour moi un gros sentiment affectif, hein, parce que moi j'ai toujours aussi aimé le travail de dehors, le travail de forêt. Au départ, j'ai même travaillé dans l'agriculture aussi. Donc c'est un truc. Puis moi j'aime bien, quoi. J'adore ça. J'aime bien me balader dans cette forêt, j'aime bien y travailler, je me sens bien dedans et ça m'apporte un plaisir, quoi.
Mais merci de partager ça avec nous. Et est-ce qu'en particulier, vous pouvez nous rencontrer peut-être un moment particulièrement heureux que vous avez eu en lien avec votre forêt et après peut-être aussi un moment malheureux?
Un moment heureux, c'est... Il n'y a pas qu'un moment heureux, quoi, pour moi. C'est l'ensemble de la chose, quoi. L'ensemble de la chose, d'être dedans et... J'ai pas vraiment un truc qui... Plus que d'autres, quoi. Hein. C'est vraiment de travailler dedans, quoi.
À chaque fois que vous y allez, vous êtes heureux. OK.
Voilà.
Et est-ce que vous avez eu un moment un peu moins joyeux un jour, peut-être, avec votre forêt?
Joyeux, particulièrement avec la forêt. Enfin, malheureux, particulièrement avec la forêt, pas vraiment, quoi. C'est le seul truc malheureux, c'était le décès de mon père, quoi.
Ah, d'accord.
Qui était un peu brutal, donc...
Et oui. C'est quelque chose que vous partagez ensemble.
Voilà.
On comprend.
Xavier, merci de nous faire partager votre passion. En tout cas, on sent bien que votre forêt, elle est importante pour vous. Et on sent la passion quand vous en parlez.
Oui.
Baptiste, du coup, tu nous as dit que vous aviez visité du coup 4 parcelles différentes cette année, c'est ça?
Oui.
Et du coup, qu'est-ce qui a fait que la forêt de Xavier remporte cette édition et qu'est-ce que le jury a préféré dans cette forêt-là?
Alors, je vais parler de la forêt Xavier, mais je vais aussi parler des autres, parce que c'est vrai qu'on en a visité 4. Et donc, je tiens à les citer aussi, parce que c'est important, qu'il y a la forêt du Sucarel, qui est voisine de celle de Xavier, qui est à Bardet-Cévennes. La forêt des Inières à Avez, dans le Gard, gérée par le groupement forestier Floraine-Braz-Inières. Et la forêt de Falguière à Saint-Jean-du-Gard, qui est la propriété de Monsieur Dubois, qui est aussi gérant du camping La Forêt. Et donc la quatrième, c'est la forêt de Peyrade, voilà, celle de Xavier, aussi à Bardet-Cévennes. Et si je les cite, c'est parce que tout était vraiment intéressant. Et les candidats, comme le jury, Xavier, tu me contrediras si c'est pas vrai, hein, mais ont tendance à... Enfin, apprécie toujours fortement ces échanges et le jury, il est très friand de rencontrer et de discuter ces propriétaires qui sont tous toujours très très motivés, très investis dans leur forêt, très soucieux de bien faire. Et donc voilà, c'est vraiment des choses qui nous portent et qui tirent tout la gestion forestière vers le haut. Donc voilà, je tenais à insister là-dessus. Et puis le travail du jury est pas évident parce que ces forêts sont pas toujours comparables. Voilà, entre la forêt de Xavier qui est d'une superficie relativement modeste, d'autres qui font plusieurs centaines d'hectares, ou la forêt à Saint-Jean-du-Gard, qui est une forêt très méditerranéenne à proximité d'un camping, c'est pas facile. Mais c'est aussi cette diversité des forêts, des propriétaires et de leur vision qui fait l'intérêt du Silvotrophée. Donc ça, c'est particulièrement important de le souligner. Et puis, et donc, effectivement, après délibération, le jury a fait le choix de désigner Xavier et la forêt de Peyrade comme lauréat. Alors, pour différentes raisons, peut-être là où il a un peu pété le score, Xavier, c'est sur le volet écologique. Et peut-être il a obtenu la note quasiment maximale. Et comme, voilà, Aymeric est avec nous, et peut-être je vais lui laisser la parole pour détailler ce comment ça se fait qu'il a eu une si bonne note sur ce volet-là ?
Oui, c'est l'occasion d'en parler. Effectivement, la forêt de Xavier, elle a quelque chose de très particulier, c'est qu'il y a à la fois des plantations d'arbres exotiques qui sont, toutes les forêts qu'on a visitées étaient essentiellement composées d'arbres exotiques, mais chez Xavier, il y avait une énorme place laissée aux essences autochtones, qu'il a très bien cité, hein, le hêtre, le bouleau, le frêne, le sorbier, toutes ces merisiers, érables, etc. Toutes ces espèces étaient prises en compte dans la gestion forestière et pas oubliées. Et ça, c'est important parce que on peut finalement, on peut continuer à cultiver des essences exotiques en Cévennes, mais c'est toujours important de garder une bonne place aux essences autochtones qui vont servir d'abri en général aux ravageurs de ces essences exotiques.
Aymeric, tu peux nous redire pour les auditeurs qu'est-ce que tu appelles essences exotiques ?
Alors, on appelle essences exotiques des essences qui ne sont pas originaires de voilà. la région. Mmh. Donc, entre autres, les essences les plus classiques, hein, c'est le pin laricio qui est originaire de Corse, mmh. le douglas qui est originaire d'Amérique du Nord, l'épicéa qui est plutôt du massif alpin, et puis le cèdre qui est de l'atlas marocain. Ce sont les quatre espèces qu'on voit le plus souvent. Le pin maritime est également considéré comme une essence exotique, même s'il est présent le long de la Méditerranée et en Gascogne. Avec de grandes nuances dans toutes ces essences exotiques, c'est que certains abritent, notamment les sapins exotiques méditerranéens, peuvent abriter la même faune que les sapins autochtones. Et donc leur impact sur la biodiversité est nettement moindre qu'un palmier exotique qu'on planterait en Cévennes, puisqu'il ne va pas pouvoir abriter une faune locale connue. Quoi. C'est là l'intérêt de la forêt de Xavier, c'est qu'elle faisait une bonne place aux essences autochtones, tout en mettant, en acceptant que, pour faire économiquement, on peut aussi cultiver des essences exotiques, ce n'est pas gênant. Donc, ça, c'est un des critères très classiques hein, de jugement, mais j'aime pas le mot jugement, hein. c'est important de le rappeler. C'était un jury composé de trois pôles. Moi, j'étais dans le jury écologue. On n'était pas en train de juger cette forêt, évidemment, mais de discuter en fait, de pistes d'amélioration pour accueillir encore plus de biodiversité, notamment pour chez Xavier. Il y avait, je dirais que au niveau diversité d'essence, c'était au maximum. Diversité des strates de végétation, c'est-à-dire entre mousse, herbacées, arbres de petite taille, arbustes, etc. Il y avait une très bonne diversité. C'est peut-être en termes de, c'est là que j'ai l'occasion d'en parler, Xavier, en termes de gestion du bois mort, il y avait effectivement quelques gros arbres laissés au sol, et ça c'était intéressant de le souligner, parce que les gros arbres au sol vont encore une fois accueillir les prédateurs qui vont s'occuper des ravageurs. Ça c'est hyper important de le souligner, de réinsister là-dessus, c'est que le bois mort il a réellement une fonction de gestion dans la forêt. C'est pas parce qu'on laisse au sol que c'est une perte économique, au contraire, c'est vraiment une vision à long terme.
Et sur ça je me permets de rebondir, parce que c'est vrai que c'était particulièrement marquant chez Xavier dans la majorité des forêts en Cévennes, on a souvent un déficit. Les gros bois morts, que ce soit debout ou au sol, sont pas très nombreux. Et là, chez Xavier, on a trouvé des belles pièces de bois morts. Et ça s'expliquait, parce que Xavier, tu l'as pas dit, mais avec ton papa, dès les années 80, si je me trompe pas, 80-90, vous appliquiez déjà cette politique, entre guillemets, de dire « Moi, les bois morts, je les laisse, j'y touche pas. » Vous aviez cette conscience à une époque. Enfin voilà, aujourd'hui, c'est un peu dans l'air du temps, c'est admis par tout le monde, c'est une pratique courante. Mais à l'époque, c'était plutôt la mentalité, c'était « Je fais propre, je nettoie, voilà. Le bois mort, je l'enlève. » Et donc ça, c'est Xavier et son papa étaient vraiment précurseurs de ce mode de gestion qui était particulièrement important. Et aujourd'hui, ça se voit et ça se ressent dans la forêt. Quoi. Mm.
Après, s'il y avait des pistes d'amélioration, mais on peut difficilement dire des pistes d'amélioration parce que c'est une forêt qui est relativement jeune, donc on ne peut pas imaginer y trouver des arbres de 1,50 m de diamètre comme on peut trouver dans certaines forêts cévenoles. Mais la présence des gros arbres en forêt, c'est quelque chose qu'il faut maintenir tout le temps, quoi. Il faut toujours garder des gros arbres dans une forêt.
Pourquoi ?
Pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand ils vont mourir, ils feront des arbres de très gros diamètre de bois mort, et c'est là-dedans qu'on verra la plus grande diversité en insectes. Mmh. Et également parce qu'un gros arbre, sur son écorce et sur toutes ses branches, il a une potentialité d'accueil de champignons, de lichens, de mousses et de plein d'insectes qui est beaucoup plus grande qu'un arbre jeune. Parce qu'il voyage sur les dizaines et les dizaines d'années, et au cours de ces dizaines et dizaines d'années, il va accueillir toutes les spores et tout ce qui traîne dans l'atmosphère de façon plus... Voilà, c'est une histoire de probabilité. Donc un gros arbre. Donc sur cette forêt, il n'y en avait pas énormément, il y en avait quelques-uns dans la hêtraie, mais c'est lié à l'ancienneté hein, du couvert forestier, on ne peut pas l'inventer, c'est quelque chose qu'on hérite, ça fait partie des critères un peu de jugement là, de la biodiversité potentielle d'une forêt, c'est de savoir si elle est ancienne ou pas, ce qui est un petit peu le cas sur une partie, je crois, de cette forêt, je me souviens plus, Baptiste.
Oui, il y avait quand même quelques beaux éléments de maturité, ouais. On voyait que voilà, les arbres dits moches pour les sylviculteurs qui ont une valeur économique faible, mais riche pour la biodiversité, était systématiquement préservé. C'est vrai que il y avait cette politique de Xavier, enfin voilà, on va dire c'est ce mode de gestion de Xavier de dire, on sentait que la biodiversité et ces arbres-là étaient pris en compte dans la gestion appliquée, y compris dans les parcelles où il y a justement il y a de la gestion et de l'exploitation.
Oui, et puis dernier point, effectivement, pourquoi les gros arbres ? Ah, pardon, Xavier, tu voulais pas intervenir ?
Oui, c'est parce que, pour un peu intervenir là sur ce point-là, c'est vrai que quand on a visité la parcelle qu'on a visitée avec pour le civil de trophée, on n'a pas vu trop de gros arbres comme ça, mais si on parcourt vraiment toute la forêt, on en trouve quand même régulièrement un peu partout.
D'accord.
Surtout en hêtre.
Oui, mais ça c'est effectivement très intéressant. Nous, dans notre travail, on essaie de convaincre tous les gestionnaires forestiers de garder un maximum d'arbres de gros diamètre, notamment parce que aussi, en dehors de toutes les lichens, mousses et autres espèces qu'ils peuvent accueillir, c'est qu'ils sont gavés de micro-habitats pour la faune. Alors, on pense tout de suite aux cavités pour la chouette, aux chauves-souris, aux loirs et compagnie. Et ça, c'est dans les gros arbres qu'on les trouve, hein. C'est pas dans des arbres de 20 cm de diamètre. Voilà, donc tous ces critères mis bout à bout font que la forêt Xavier est effectivement bien au-dessus des autres, mais chez les autres concurrents, entre guillemets, j'aime pas dire concurrents parce qu'il n'y avait vraiment pas de concurrence hein, là-dedans.
Candidat,
voilà. Et c'était également très intéressant de voir comment il y avait cette sensibilité qui était prise en compte pour gérer la forêt, qu'on soit en essence exotique ou pas, avec la conservation d'arbres de gros diamètre ou la conservation d'arbres à cavité. Et moi, je trouve ça toujours salutaire hein, chez tous ces propriétaires forestiers de ne pas penser que à l'économie et d'essayer de dire ah, « Tiens, c'est bien aussi d'accueillir du monde dans ma forêt, y compris des espèces sauvages. »
Et mais justement, tu me fais la transition, parce que pour finir de répondre à la question, là, on a bien développé, grâce à Aymeric, le volet écologique, mais les deux autres volets n'étaient pas en reste non plus. Donc, c'est vrai que forcément, la prise en compte du volet écologique faisait que sur le jury socio-culturel, ça a été très apprécié aussi. C'est une forêt qui était très agréable, sur laquelle s'y balader. Voilà, on n'est pas sur des grandes pistes, des grandes autoroutes. Il n'y a pas des grandes tirs de débardage, des plaies, on va dire, des saignées dans le peuplement. Voilà, les interventions humaines, en fait, sont très peu visibles, malgré le fait que ce soit exploité. On le voit peu, donc c'est, d'un point de vue de l'usager, du promeneur, c'est peu ressenti. Il y a de la chasse, il y a des champignons, et puis ce que le jury a fortement apprécié, et ça on l'a déjà dit, c'est la passion, voire l'amour que Xavier met dans la gestion de sa forêt, et ça se ressent à la fois quand on se promène dans cette forêt, on sent qu'elle est bichonnée, et dans le discours, dans les échanges avec le propriétaire, parce que on a parlé d'essayer d'utiliser le Sylvotrophée comme un outil de communication envers le grand public, envers les autres propriétaires ou gestionnaires forestiers. Mais un des grands intérêts du Sylvotrophée, c'est aussi les échanges le jour J entre le jury et le propriétaire, de croiser les regards. Et c'est une expérience qui est toujours très appréciée et très enrichissante. Et donc, on a fait les deux volets. Et le dernier, je termine par celui-là, c'est le volet économique. Et donc, c'était rigolo parce que pendant la visite, on s'est dit, tiens, ça pourrait peut-être être le point faible, en fait, de cette forêt.
Oui, je crois que c'est un peu ça, apparemment.
Voilà, mais voilà, hein, parce qu'on s'est dit, bon, le jury a dit, peut-être que les prélèvements sont modérés, sont un peu trop par rapport à ce que la forêt pourrait produire. Et peut-être
oui,
que...
Ça, je le reconnais, hein, que je suis en retard là-dessus déjà, et que quand je marque peut-être pas assez.
Tu le reconnaissais, et puis le jury a dit aussi, ouais. C'est vrai que peut-être que tu pourrais mieux valoriser tes bois, en tirer des meilleurs revenus, etc. Mais, et donc je m'étais dit, tiens, peut-être que ça peut porter préjudice à la forêt. Et quand on a délibéré avec le jury, le jury des sylviculteurs ont été très séduits, en fait, quand même, par la gestion mise en œuvre, notamment par le côté autodidacte de Xavier. On l'a évoqué tout à l'heure, il s'est formé tout seul, il fait tout lui-même. L'exploitation, elle est faite aussi en famille. Et puis son investissement, on sent le temps que tu passes dans la forêt. On savait que tu étais capable de dire, il y a une tâche de régénération ici, une autre un peu plus loin. Enfin, il la connaît par cœur, tes arbres, tu pourrais presque les nommer. et voilà, cette forêt, elle est jardinée, pas au sens technique, parce que la chute est jardinée. C'est quelque chose, une notion, mais vraiment comme on sent que tu la bichonnes comme ton jardin, et c'est vrai que le jury a apprécié ça, a apprécié aussi la qualité de l'exploitation, avec très peu de dégâts sur les peuplements.
On fait une exploitation à l'ancienne, hein, avec un tracteur, un treuil, et voilà, hein, pas des grosses machines, et voilà. De toute façon, la forêt le permettrait pas, hein, tel qu'elle est. Mais c'est pas possible, quoi, comme ça.
Et puis au final,
on fait vraiment à l'ancienne, et on tire les bois sur la route qui est au-dessus, et voilà.
Voilà. Et donc tout ça, ça fait que même le jury des sylviculteurs a lui aussi attribué une très bonne note. Il faut parler de notes, mais c'est pareil. C'est plus, les grilles sont pas là pour noter, mais c'est plus des guides de lecture. Il avait aussi particulièrement apprécié la cohérence entre la vision de Xavier de sa forêt, ses objectifs et la gestion mise en œuvre. C'est qu'il n'y avait pas un discours d'un côté et des actes différents de l'autre. On sentait que tout était vraiment très cohérent. Et donc au final, tout ça fait que Xavier a remporté. Alors pareil, ce qu'on disait, c'est un concours, mais c'est pas une compétition. Hein. Vous l'avez ressenti, j'espère, dans mes propos. Ça fait que Xavier aujourd'hui a été désigné lauréat de cette 3e édition du Sylvotrophée. Félicitations à toi encore, Xavier.
Merci bien. Bravo. Merci. Et ça me récompense tout le travail et les efforts fournis.
Et 40 ans d'implication dans votre forêt,
mérité. Oui, à peu près 40,
Je vais rajouter un petit mot parce que je pense que pour les auditeurs, on a oublié de dire où elle était, cette forêt, précisément. Oui, mais Barre-des-Cévennes.
Cette forêt, elle est à Barre-des-Cévennes, sur la commune de Barre-des-Cévennes. Sur la route quand on va à Fontmort, ceux qui connaissent, la route qui est un peu avant Fontmort, en face, en fait, le petit village de Vergognius, qui est sur le bas.
Voilà, je pense que c'est important s'il y en a qui veulent aller s'y balader, mais pour voir un peu ce que c'est, une forêt qui remporte un concours forestier.
À peu près à 5-6 km de bar, quand on va faire Fontmort.
Le parc vient de faire part des remarques du jury, ce qu'ils ont apprécié dans votre forêt. Vous, dans les remarques, dans les échanges qu'il y a eu justement à l'occasion du Sylvotrophée, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, surpris? Est-ce que vous avez appris des choses aussi peut-être?
Oui, on apprend toujours quelque chose de toute façon, hein, quand on a des échanges comme ça. Moi, je suis toujours à l'écoute de ceux qui sont spécialisés là-dedans, et que voilà, que moi j'ai bien aimé. C'est vrai que ça a été une demi-journée d'après-midi qui a été agréable et qui a été bien avec des échanges avec tout le monde. Donc c'était vraiment positif et j'ai bien apprécié. Le jury était très sympa et vraiment ça m'a plu.
Et Xavier, pour finir, on va vous poser la question traditionnelle qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que vous avez un petit mot forestier à nous partager ?
Un petit mot forestier, je ne sais pas ce que vous entendez par petit mot forestier.
C'est libre, ça peut être une anecdote, un souvenir avec votre forêt, une pensée, un souhait, un vœu.
Un vœu, c'est surtout que j'espère qu'un de mes enfants reprendront la suite. Ça, c'est mon vœu. Maintenant, pour le moment, ma fille s'en occupe un peu aussi. Mais est-ce qu'elle va vraiment continuer ou pas, je ne sais pas. Pour le moment, on ne s'est pas encore posé vraiment la question. Mais mon vœu plus cher, ce serait que ça reste un de mes enfants, ou même plusieurs, mais plusieurs sur une petite forêt. Enfin, pour moi, c'est une petite forêt quand même, parce qu'il n'y a que 34 hectares. Plusieurs, c'est un peu plus compliqué. Mais qu'elle puisse, mes enfants puissent reprendre la suite, quoi.
Vu votre implication, on vous le souhaite sincèrement.
Voilà.
Merci beaucoup, Xavier, de nous avoir fait partager votre passion et découvrir votre forêt.
Je suis bien content de faire ça avec vous aussi.
Merci, Xavier.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci,
au revoir.
Xavier. Au revoir.
Au revoir.
Eh bien, cette émission de Palabre en forêt continue avec la fameuse rubrique Plantes et animaux des bois d'Aymeric Sulmont.
Plantes et animaux des bois.
Un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers des écharpes de brume.
Il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens.
Aymeric, alors on a envie de te dire « Oh punaise !»
Oui. c'est bien la saison parce que je pense que tout le monde s'est aperçu que nos maisons étaient très accueillantes pour un grand nombre de punaises qui arrivent en masse, qui viennent se cacher, qui essaient de rentrer par tous les interstices possibles. Et donc j'avais envie de faire un petit topo sur les punaises, même si c'est un groupe que je connais très mal. Parce que c'est pas un groupe qu'on a beaucoup étudié au Parc national des Cévennes, mais ça va pas durer longtemps comme ça. On va s'y intéresser. Et donc le groupe des punaises. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle une punaise ? Faites de l'étymologie à dessous et vous allez vite trouver.
Ah, parce que ça sent pas bon ?
C'est exactement ça. Pue, d'accord. Parce que ça pue et naise, parce que ça vient du nez. Ça pue, c'est désagréable au nez, quoi. Okay. Et donc, il y a effectivement quelques punaises. Quand vous les chatouillez un peu, elles vous envoient un liquide nauséabond. C'est un moyen de se préserver des prédateurs.
Mais il y en a qui sentent super bon, non ? Il y en a pas
Et il y en a qui sentent très bon. Justement, ça fait partie des punaises qui sont assez entre guillemets envahissantes dans nos maisons. C'est la fameuse punaise américaine ou punaise californienne. Alors pour la décrire en quelques secondes, c'est une punaise qui est marron avec des larges pattes. Marron, très allongé, qui fait 2 à 3 cm de long, un peu étroite, et avec des couleurs un peu brillantes, mais ça reste dans les tons marron. Et donc cette punaise, elle est arrivée au début des années 2000, je crois, en France, et elle a très vite conquis toutes les plantations de conifères. Alors, est-ce qu'elle a une préférence pour le Douglas ? C'est même pas certain, parce que je crois qu'elle fait feu de tout conifère. Elle vient sucer, en fait, la sève des conifères, des bourgeons. Et donc, ce qui fait qu'elle pullule, vu qu'on a énormément de plantations de conifères, c'est un peu normal qu'elle pullule chez nous. Et cette propension à venir dans les maisons pour se mettre à l'abri, c'est simplement parce qu'il y a elle détecte une source de chaleur, des abris potentiels. Enfin, c'est assez simple. Et des émanations de CO2, c'est ça qui les attire. Elles vont trouver des abris, évidemment, dans la nature très facilement sous les écorces. Vous voyez des pullulations de ce qu'on appelle couramment le gendarme. Oui. Qui est très très courante et qui sont un peu encombrantes dans les maisons. Alors j'ai regardé, il y a 2-3 sites qui proposent des remèdes entre guillemets bio, parce qu'évidemment si vous arrivez avec vos gros sabots d'insecticides, c'est pas génial. Donc testez, il y a plusieurs remèdes. Il y a l'ail, mais l'ail ça sent pas terrible. Vous aspergez de l'ail le long des fenêtres. Il y a le vinaigre blanc, qui est c'est relativement neutre, même si ça a une petite odeur. Elle déteste ça. Le citron et la menthe. Donc vous avez quatre remèdes entre guillemets bio pour essayer d'éloigner ces bêtes si elles vous encombrent à la maison.
Tout voilà. Simple, super.
Je vais pas parler des punaises de lit parce qu'on en a beaucoup parlé dans l'actualité et c'est pas l'objet, mais enfin ça fait partie de ce grand groupe. J'ai oublié de parler voilà de ce grand groupe au sein des nombreux insectes qu'il y a en France. Il y a donc environ 50 000 espèces d'insectes en France. Il y a des grands groupes qu'on appelle des ordres. Vous avez vu les ordres des hyménoptères qui sont les ordres des guêpes et des abeilles. Il y a le groupe des coléoptères dont j'ai déjà parlé auparavant qui a plus de 10 000 espèces en France. Et les punaises, c'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup. C'est déjà 1400 espèces, donc pour les connaître, c'est un peu compliqué. Et vous avez, outre ces punaises qui sentent pas bon, je sens que vous en connaissez plein d'autres. Je sais pas si vous m'en citerez d'autres. Là, comme ça, au pif, notre...
Oh, punaise, non.
En fait, si, vous en connaissez. Je suis ce que tout le monde appelle l'araignée d'eau. C'est très joli, là, sur les... Ça nage à la surface de l'eau. On croit que c'est des araignées, tout ça. Et on croit qu'il n'y a que quatre pattes, d'ailleurs. Elle nage très... En fait, elle nage pas. Elle flotte sur l'eau comme un hydroglisseur. Et elle vient grappiller tout ce qui vient mourir à la surface de l'eau. Et ben, ce qu'on appelle une araignée d'eau n'est autre qu'une punaise. Enfin, c'est rattaché au grand groupe des hétéroptères, voilà. J'ai oublié de donner le nom. Hétéroptère, ça vient du, c'est le mot savant pour préciser que ce sont des insectes qui ont deux paires d'ailes, donc quatre ailes, et les deux supérieures sont en partie rigides et en partie membraneuses. Alors que les deux ailes du dessous sont entièrement membraneuses et servent à voler. Donc les araignées d'eau arrivent d'une surface d'eau libre à une autre, parfois par voie aérienne. C'est pour ça qu'elles colonisent très facilement des nouveaux coins. Vous avez aussi ces fameux nageurs dans l'eau. Je suis sûr que quand vous avez vu une mare, vous avez vu des bestioles qui ont l'air de nager, qui font la brasse.
Oui.
Ça aussi, c'est des punaises.
Et ben
on appelle ça des neppes. Donc, en fait, tout le monde voit ces punaises, elles sont partout. Évidemment, on connaît ces punaises qui nous mangent les choux, on déteste ça. Et là aussi, il y a des remèdes. Je vous invite à chercher un peu vous-même aussi les remèdes sur Internet. Mais on peut utiliser le savon noir, L'idéal, c'est de récupérer, de surveiller ces choux avant que les punaises arrivent et d'éliminer les œufs si on sait les reconnaître. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme punaise connue ? La punaise diabolique, encore une invasive venue d'Asie. Mais c'est pareil, là, par rapport aux invasives, on récolte en fait les fruits de la mondialisation et c'est la biodiversité, c'est une sorte de taxes que la nature nous fait payer par rapport à tout ce qu'on échange comme produit entre les différentes régions du monde. Et il y a énormément, effectivement, de punaises exotiques, dont la punaise diabolique, que tout le monde a sans doute déjà vu. C'est une punaise aussi qui va envahir nos maisons et qui a pas des couleurs... Ça tire un peu sur le violet au centre, violet-marron. Et sur les bords, c'est assez facile à reconnaître. Il y a une marge comme un damier noir et blanc. Et ça... Vous tapez punaise diabolique, vous la verrez sans doute chez vous. Elle a la fâcheuse habitude de piquer tout ce qui est fruits et légumes, et les horticulteurs et les arboriculteurs la détestent. Là aussi, il y a des moyens bio de lutter contre cette espèce, mais c'est vrai qu'on assiste à des pullulations d'espèces dont l'équilibre n'est pas encore fait avec la nature, mais c'est en cours. Donc évidemment, on pense toujours punaise avec le côté négatif, mais sont aussi des animaux très utiles dans le jardin pour un grand nombre de ravageurs comme les pucerons, les cochenilles, puisqu'il y a des punaises carnivores, entre guillemets, ou insectivores, qui s'occupent de limiter les populations de pucerons et de cochenilles, et même d'acariens. Donc voilà, il ne faut pas toutes les mettre dans le même... comment on dit, panier.
Oui, chaque espèce a son utilité.
Voilà, grand groupe des punaises. Et il y aura sans doute encore plein de choses à raconter. Moi, j'aime évoquer un groupe dans les punaises qu'on appelle les membracidés. Et alors, j'ai dit un mot comme ça, je les invite parce que c'est difficile à décrire. C'est le groupe le plus extraordinaire en forme, je pense, au niveau des insectes. C'est donc un groupe d'hémiptères, donc c'est des cousins des punaises. et qui est très très peu représenté en France. Il y a seulement 4 espèces, mais dans le monde, il y en a plus de 3000. Et je vous invite à taper à quoi ressemble un membracidé sur Internet, parce que c'est assez difficile à décrire, mais c'est comme si l'insecte qui évoquerait entre guillemets une cicadelle, mais ça, si je vous dis cicadelle, vous n'allez pas du tout voir à quoi ça ressemble. Et c'est un insecte qui est surmonté d'une sorte de promontoire qui est exubérant, qui peut ressembler pour certaines à une fourmi dans les pays exotiques, ou à une espèce de radar de bateau, dont la fonction n'est pas toujours connue. Et les membracidés ont développé une créativité sur cette espèce de promontoire qui surplombe l'insecte, qui est complètement dingue. Il y a des gens qui se sont passionnés de ça, donc c'est en Guyane française, il y a énormément de membracidés et qui sont toutes absolument délirants sur la forme. C'est un petit côté, c'est pour aller chercher plus loin et découvrir ce que c'est que ce monde des membracidés.
Ouais, on vient de regarder, ça vaut le coup d'œil.
Même celui qui est en France est assez original, mais il n'est pas aussi original que ceux de Guyane ou d'ailleurs. Voilà le tout petit topo sur les punaises. Mais je pense qu'on va progresser sur la découverte de ce monde qui est très diversifié, en partie forestier, mais pas que. Voilà.
Ben merci, Aymeric, pour cette bientôt. Découverte.
On retiendra qu'il faut bien choisir les punaises quand on veut les chatouiller.
Voilà, c'est exactement.
Et bien voilà, c'est fini pour cette édition de Palabres en forêt. On se retrouve bientôt sur Radio Barthas, 107FM. Salut tout le monde.
À bientôt. Au revoir.
Palabres
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthas
107 FM.